Vous écoutez On lit pour vous.
Ce n'est plus une tendance, c'est un mode de vie. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 27 décembre 2024 dans La Presse. Les produits d'ici sont plus facilement accessibles qu'avant pour l'ensemble des consommateurs. Mais y avait-il plus d'aliments locaux sur la table en 2024? C'est tout à fait possible, selon Guillaume Mathieu, cofondateur d'ILO, une firme de consultation qui accompagne les entreprises bioalimentaires d'ici. Quelqu'un qui fait moindrement l'effort de chercher le symbole « aliment du Québec » peut facilement faire, par exemple, un repas des fêtes 100% local, dit-il, en partant de la dinde jusqu'aux fruits et légumes de champ ou de serre, avec en prime un vin québécois de qualité. Impossible aujourd'hui de ne pas trouver un vin qui va plaire à nos invités, précise-t-il. Il y en a à tous les prix et pour tous les goûts. Ceux et celles qui avaient envie de sortir du patrimoine culinaire québécois n'avaient pas besoin d'inclure des ingrédients importés pour autant, puisque certains aliments exotiques poussent désormais ici. Ils sont souvent le fruit de producteurs issus de l'immigration, selon Guillaume Mathieu. On fait du curcuma ou du gingembre, cite-t-il en exemple. Jadis, il n'y avait pas de curcuma québécois dans la purée de pommes de terre, et pas de curcuma du tout. C'est sûr que si on se compare à il y a 50 ans, il y avait beaucoup moins de produits importés sur nos tables, précise Guillaume Mathieu. On était forcé de manger local avec très peu de diversification alimentaire. Mais le vent a tourné et les aliments québécois se sont multipliés. Les produits se développent ici. Non seulement il y en a plus, mais également ils sont plus visibles. Depuis 20 ans, on identifie mieux les produits d'ici parce qu'il y a une fierté rattachée à ça, estime pour sa part le chef Stélio Perrombellon, professeur à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ. C'est dans nos valeurs maintenant d'encourager notre économie, dit-il. Même si on est moins à l'aise financièrement, on a cette fierté de dire que ça vient du Québec. Ça n'a pas toujours été le cas. Stélio Perrombellon a connu cette époque où c'était plutôt l'inverse. Si on voulait bien paraître en cuisine, on incluait des produits importés. Il y a eu, à la fin des années 1970, au début des années 1980, cette ouverture sur le monde et un accès aux produits du monde, raconte le chef. Ça a amené de nouveaux aliments ici. Certains Québécois se rappelleront l'arrivée des kiwis dans les épiceries qui en avaient déstabilisé plus d'un. En gastronomie fine, il n'y avait pas de problème à faire venir des asperges blanches de Hollande parce que c'était là qu'on les produisait le mieux, se rappelle Stélio Perrombellon. Alors qu'on serait aujourd'hui un peu timide de l'écrire sur un menu. La cerise de terre serait donc le nouveau kiwi. Le chef confirme. Cette mouvance-là a donné des ailes à des producteurs, des artisans, dit-il. Alors, il s'est développé ici des produits qui remplacent les produits importés. Le milieu des fromages nous a beaucoup aidés aussi, précise Stélio Perrombellon. Il y a 20 ans, on était encore à dire « Goûte ça, c'est comme du camembert ». Aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'il y a sur la table du grès des champs. Des produits locaux aujourd'hui, il y en a pratiquement dans toutes les catégories de produits à l'épicerie, indique Guillaume Mathieu. Meilleure identification. Il y a une quinzaine d'années, le logo « Aliments du Québec » a connu une première croissance. Les détaillants ont commencé à identifier les aliments québécois sur leurs tablettes. Il y avait à cette époque 7000 produits affichés. 5 ans plus tard, en 2015, on était passé à 20 000 produits. Une dizaine d'années de plus, pendant lesquelles on a affronté une pandémie et ce sont désormais 27 000 produits qui portent aujourd'hui un logo « Aliments du Québec » ou « Aliments préparés au Québec » ou leur version bio. Selon Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec, la pandémie a vraiment ramené le principe d'autonomie alimentaire dans le discours. Les tablettes vides à l'épicerie ont marqué les esprits, dit-elle. Les gens ont réalisé qu'on pouvait être dépendant de l'extérieur et que c'était important d'acheter nos ressources ici, de faire grandir nos entreprises. Vous écoutez, ce n'est plus une tendance, c'est un mode de vie, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 27 décembre 2024 dans la presse. La pandémie a aussi incité plein de monde à cuisiner davantage et à s'intéresser aux ingrédients québécois pour faire leurs recettes. On peut manger plus local qu'avant, selon Isabelle Roy. Ce n'est plus une tendance, c'est un mode de vie. Il y a des produits disponibles à l'année, dit Isabelle Roy, qui donne l'exemple classique des légumes racines. Mais, hormis les patates douces et les topinambours, la sériculture permet un approvisionnement local en hiver, fraises, tomates, laitues, concombres. Cela ne vient pas sans soulever quelques débats sur l'empreinte énergétique de ces aliments. Il ne faudrait pas installer d'immenses serres sur des terres agricoles de qualité, soulève également Olivier Flamand-Lapointe, analyste en agriculture durable pour Équiterre, qui croit que la poursuite du développement de notre alimentation locale passe par l'implantation de nouvelles cultures. Olivier Flamand-Lapointe, d'Équiterre, le souligne. Si on voulait développer une véritable autonomie alimentaire, il faudrait miser davantage sur des protéines végétales destinées à la consommation humaine. Selon Olivier Flamand-Lapointe, il faut avoir une vision globale de notre alimentation locale qui inclut plusieurs éléments et qui, idéalement, suit les saisons. Les saisons qui s'allongent. Dans les deux dernières décennies, les rendements dans les productions animales et végétales ont augmenté. Les saisons des fruits et légumes se sont allongées. De nouveaux marchés publics sont apparus. Les maraîchers amorcent leurs activités de plus en plus tôt et terminent de plus en plus tard, dit Jean-Nic Trudel, directeur général de l'Association des marchés publics du Québec, AMPQ, depuis 7 ans. À son arrivée, il y avait autour de 116 membres au sein de l'association. Il y a désormais presque 150 membres. La plupart des producteurs qui décident de s'installer dans un marché viennent de la région. Jean-Nic Trudel estime que les 2/3 des producteurs font moins de 45 minutes de route pour se rendre au kiosque de leur marché public. De même, les 2/3 de la clientèle des marchés publics vivent à moins de 10 km du marché qu'ils fréquentent. Cette régionalisation de l'alimentation locale a été confirmée dans un sondage mené par la firme Léger pour le compte d'Ilo. On y apprend que plus de la moitié, 55% des Québécois, disent être plus enclins à acheter un produit qui présente une région d'origine par rapport à un produit qui s'affiche québécois, généralement. État de l'autonomie alimentaire. À l'automne 2023, l'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC, en collaboration notamment avec Équiterre, a publié l'étude Les filières de produits au cœur de l'autonomie alimentaire, analyses et propositions pour une politique bioalimentaire structurante. Conclusion. Le ratio d'autosuffisance de la province est passé de 75 à 35% en 50 ans. Cette conclusion va à l'encontre de celle du MAPAC qui calcule que l'autonomie alimentaire est en hausse. Selon Olivier Flamand-Lapointe, analyste en agriculture durable pour Équiterre, cela s'explique parce que une grande partie de nos productions quitte la province et que nous importons toujours de très nombreux aliments. Un exemple. De 90 % à 95 % des haricots secs québécois sont exportés et on achète le même haricot importé. Notre système agroalimentaire est de plus en plus mondialisé. On peut penser aux accords de libre-échange signés dans les dernières années. Ça ouvre la porte aux produits alimentaires étrangers. En savoir plus, source MAPAC. souveraineté alimentaire à 53%. Un peu plus de la moitié, 53,3%, des achats du réseau québécois de la distribution alimentaire, épiceries, restaurants, cafétérias, hôpitaux, etc., ont été effectués auprès de fournisseurs du Québec, producteurs, pêcheurs et transformateurs, en 2021. La part était de 52,7% en 2020 et de 51,8% en 2019. 29 000 fermes. Selon le recensement de l'agriculture, 48 144 exploitations agricoles étaient en activité au Québec en 1981, alors qu'on en dénombrait 29 380 en 2021. Source Aliments du Québec. 40% des produits ont la certification Aliments du Québec et 60% sont des aliments préparés au Québec. Source, les producteurs en serre du Québec. Culture en serre. Entre 2019 et 2023, le nombre d'entreprises a connu une hausse de 35%. Il y a désormais 1246 entreprises séricoles au Québec. C'était « Ce n'est plus une tendance, c'est un mode de vie », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 27 décembre 2024 dans La Presse.
Dix façons d'aider les enseignants, un texte de Marie-Claire Malbeuf, paru le 19 mars 2024 dans La Presse. Les cinq directeurs d'école que nous avons interviewés ne manquaient pas d'idées pour alléger la tâche des enseignants. Voici 10 suggestions récurrentes. 1. Préparer son enfant à l'apprentissage. Quand les enfants sont jeunes, faites vérifier leurs yeux et leurs oreilles par un médecin pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien et prévoir ce qu'il faut pour ne pas nuire à l'apprentissage. Par la suite, le parent n'a pas à se substituer aux enseignants. Il soutient mieux l'école quand il joue son rôle parental, encourage son enfant, le questionne sur ce qu'il a appris et valorise la réussite. Par Stéphane Richard, vice-président de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. 2. Instaurer une discipline à la maison. Assurez-vous que votre enfant s'est levé à l'heure pour qu'il n'arrive pas en retard, même au secondaire. Ça nous aide aussi si vous vous assurez qu'il a arrêté de gamer assez tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil. On peut donner des stratégies aux parents qui se sentent démunis. Leur dire « Vous pouvez faire respecter les règles sans lui taper dessus. Fermez le Wi-Fi à 22 heures ou prendre les manettes de jeux vidéo, ça se peut. » Par Julie Dessureau, directrice de l'école secondaire Joseph-François Perrault, dans le quartier Saint-Michel. 3. Respecter le calendrier scolaire. Planifiez vos vacances scolaires en fonction du calendrier scolaire. Quand un parent nous dit qu'il est très inquiet parce que son enfant a manqué 6 semaines d'école à cause de la grève et nous annonce ensuite qu'il va rallonger la relâche pour partir en voyage, ça ne nous aide pas. Par Julie Dessureau. 4. Échanger des informations. Des parents m'appellent quand ils voient des affaires sur les réseaux sociaux ou quand leur enfant leur rapporte des situations d'intimidation. C'est toujours super aidant parce qu'on ne peut pas avoir les deux pieds partout. Ça nous permet de faire des vérifications, d'avoir une longueur d'avance. L'enseignant n'est pas en mesure de tout voir parce qu'il y a des choses insidieuses. Par Julie Dessureau. 5. Stimuler l'indépendance. Quand un enfant conteste une note ou une intervention, encouragez-le à développer son autonomie en allant parler à l'enseignant au lieu de le contacter vous-même. C'est naturel dans une école et ça n'alourdit pas la tâche du personnel. Mais ce n'est pas toujours le premier réflexe des parents. Par David Bowles, directeur général du collège Charles Lemoine à Longueuil et président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. 6. Cesser la surprotection. Des parents veulent éviter tout ce qui met leur enfant mal à l'aise, comme présenter un exposé oral. Mais notre travail, c'est aussi de développer ses compétences sociales et émotionnelles, de l'équiper pour faire face à cet inconfort et le surmonter. Il n'excellera peut-être pas du jour au lendemain, mais il deviendra un peu meilleur chaque fois. Par Julie de Sureau. 7. Gérer ses émotions. Avec le courriel et les réseaux sociaux, les gens sont habitués à exprimer leurs désaccords et leurs émotions ici et maintenant. Je conseille aux parents et aux enseignants qui leur répondent d'écrire un brouillon si ça leur fait du bien, mais de ne pas l'envoyer et d'attendre 24 heures que l'émotion retombe. Par Guylaine Côté, directrice générale fraîchement retraitée du Collège Nouvelle Frontière, à Gatineau. 8. Se montrer poli. Des gens pressés écrivent vite, vite, sans prendre le temps d'ajouter « Bonjour, j'espère que vous allez bien, passez une belle journée ». Mais c'est important dans une relation de partenariat. Ça fait du bien à lire, au lieu de recevoir directement une attaque. Ça peut certainement rendre la tâche de l'enseignant moins démoralisante. Par David Bowles. 9. Savoir patienter. Les gens s'attendent de plus en plus à des réactions rapides. Mais l'enseignant passe la majorité de sa journée devant une classe. Et au secondaire, certains ont des dizaines et des dizaines d'élèves. Soyez conscient que ça peut prendre 24 à 48 heures avant de recevoir une réponse. Par David Bowles. 10. Enseigner les bonnes manières à la maison. L'école a pour mission d'instruire et de socialiser. Mais l'éducation de base revient aux parents. Les bonnes manières, dire au revoir, merci, le respect et tout ça, devraient être appris à la maison. Par Guylaine Côté. C'était « 10 façons d'aider les enseignants », un texte de Marie-Claire Malbeuf, paru le 19 mars 2024 dans la presse.
José Blanchette, des livres à l'infini. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Chroniqueuse au journal Le Devoir depuis 40 ans, José Blanchette n'en reste pas moins, comme elle se définit elle-même, un électron libre. Si elle commence par écrire dans ledit journal des critiques gastronomiques, elle y signe hebdomadairement depuis 1993 son Zeitgeist, nomination provenant de la philosophie allemande que l'on pourrait traduire par « l'esprit du temps ». Car personne ne possède mieux l'intelligence effilée et les mots pour le dire que cette femme pourfendeuse des aberrations de notre société et râleuse juste ce qu'il faut pour nous ouvrir les yeux devant la bêtise éternelle. Émouvante aussi, parce que sensible et près du cœur, cherchant des angles d'ouverture à travers les livres, fidèle compagnon de longue date. En lisant la page qu'elle écrit tous les vendredis dans Le Devoir, on sait que José Blanchette accorde aux livres, qui s'occupent de discuter de sociaux, d'éducation ou d'environnement, une première place, le siège d'honneur en fait. Elle se sert des bouquins pour aiguiller ses recherches, étayer ses réflexions, approfondir ses idées. Elle les présente, les recommande, les cite. Elle les aime. « Je viens d'une famille de lecteurs », explique-t-elle. Elle entre en lettres au cégep à l'âge de 15 ans et les auteurs qu'on lui fait lire l'ennuient. Tolstoï et Flaubert, elle n'en a que faire. De toute évidence, elle a un parti pris pour la marge et l'audace. Ce sont plutôt les œuvres qu'elle découvre par la bande qui lui apporteront satisfaction. Elle s'empare des San Antonio de son père, Libre et Cher, Anaïs Nin, Henry Miller, Carlos Castaneda. Des lectures qui viendront alimenter sans savoir sa propre écriture, qui prendra vie quand elle entrera au devoir à 20 ans. rouvrir les cartons. Depuis, elle a fait paraître des essais et en 2020, Mon jeune amant français, un premier roman. Cet automne, elle publie Presque vierge, druide, dans lequel elle relate son histoire vécue avec R, un professeur de 30 ans son aîné, alors qu'elle est adolescente. En 2018, elle apprend que l'homme est en prison pour cause de pédophilie. Ébranlée, elle considère conséquemment la relation qu'elle a eue sous une facette différente. À 15 ans, on est tellement transporté, on est en feu. Moi, j'étais en feu en tout cas, exprime-t-elle. J'ai toujours pensé que j'étais consentante, donc que c'était correct. Mais non, et c'est dans la loi. À 15 ans, tu n'es pas consentante avec quelqu'un qui est en poste d'autorité. Tout cela fait en sorte que José Blanchette exhume ses boîtes où elle a conservé journaux intimes, lettres que R lui écrivait, travaux de cégep annotés, toutes les traces de cette époque charnière s'y trouvent. Elle raconte ce qui s'est passé dans l'intention de rejoindre les existences restées muettes, celle-là. La littérature, ça aide. En tout cas, moi, ça me fait sentir moins seul dans la vie. C'est pour ça que je lis. C'est juste pour ça. Et aussi parce que j'aime les mots, vibre-t-elle. Entre l'enseignant de philo et l'étudiante, les livres sont au cœur des échanges. Ils viennent soutenir les discussions, en sont parfois les déclencheurs. Quand j'ai reçu Lolita de Nabokov, de mon prof, ça a été marquant, se rappelle l'autrice. Parce que c'est une œuvre qui m'a donné la permission de sauter le pas avec lui, en fait, c'est ce qu'il voulait. Mais j'ai découvert une prose que je ne pensais même pas possible. Et une écriture du désir aussi. Même si on est dans quelque chose de malsain, reste qu'il y avait l'excitation qui venait avec ça. Ce n'est pas pour rien que c'était un livre à l'index. À la même période, elle ouvre les pages de « La détresse et l'enchantement » de Gabriel Roy, qui révèle tout autre chose, mais autant saisissant pour la jeune fille. Avec les années et les déménagements, la chroniqueuse s'est départie de beaucoup de livres. Il aurait été impossible de tout faire tenir en un seul lieu. Ce qu'elle a gardé au fil des décennies, du Colette et du Laferrière, témoigne de l'amour profond qu'elle leur porte. À ceux-là se joignent Garcia Marquez, Romain Gary, Pessoa, des écrivains qu'elle identifie à des voix parce qu'ils sont parvenus à articuler des chemins de traverse entre eux et la lectrice qu'est José Blanchette, prenant part ensemble à une conversation qui dure depuis longtemps. Plus près de nous, mais non moins prégnante, Nelly Arcan, Robert Lalonde, Hélène Dorion, Jodorowsky font partie de ces voix évocatrices, inspirantes, salvatrices. Insatiable. Et elle fait sans cesse de nouvelles connaissances, revient à la compagnie d'auteurs et d'autrices déjà fréquentées, en apprend continuellement auprès de l'un ou de celle-là, dressant un inventaire qui aboutit sur son bureau ou par terre en de multiples piles chancelantes. Au hasard, elle ouvre un livre, glane une phrase. « Note sur la mélodie des choses » de Rilke se trouve à proximité au moment où l'on se parle au téléphone. Elle s'en servira peut-être pour une chronique. Tout au long de sa vie, dépendamment de ce qui se passe, des écrivains et des écrivaines viennent lui prêter main-forte. Quand on lui diagnostique un cancer, Christiane Singer l'accompagne avec ses ouvrages côtoyant la philosophie, la spiritualité, le récit et la poésie. Parmi les repérages récents, elle cite la correspondance entre Camus et Maria Cazares, dont l'écriture est animée d'une ferveur qui l'emporte. Ce qui l'amène à parler d'Eva Illouz et de son essai « La fin de l'amour », où la sociologue examine l'impact des applications de rencontres sur les relations amoureuses. José Blanchette s'intéresse pareillement aux femmes, qui sont en train de libérer une certaine parole, en mentionnant Margaret Atwood. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté. Du côté national, Marie-Hélène Voyer retient son attention avec le recueil poétique « Mourons des champs » et l'essai « L'habitude des ruines », des odes aux territoires pour lesquels l'autrice a doublement été récompensée du prix des libraires du Québec en 2023. Franc coup de cœur pour « Tueuse de joie patriarcale » de Marie-Christine Lemieux-Couture, un recueil de textes que les masculinistes ne peuvent pas lire sans avoir un feu sauvage, selon Blanchette. Celle-ci, attirée par ce qui dévie des sentiers les plus empruntés, a été agréablement surprise par « Si nous restons têtus » de Brigitte Léveillé, une poésie documentaire. Je ne savais même pas que ça existait, racontant le projet fou de cinq amis se lançant collectivement dans la construction d'une maison. Grand émoi pour la pièce de théâtre « Sans jaillir » de la comédienne et dramaturge québécoise originaire du Burundi, Stéphie Mazounia, abordant le racisme, le féminisme et l'image corporelle avec fraîcheur et esprit. « Moi, je suis pâmé devant ces filles-là parce qu'elles prennent le monde là où il est et elles sont en train de l'amener ailleurs », affirme notre libraire d'un jour. Pour inviter justement nos politiciens à faire de même et à prendre à bras-le-corps les enjeux sociaux, José Blanchette propose l'hypothèse K d'Aurélien Barreau, un astrophysicien philosophe doté d'une superbe éloquence pour nous pister sur les solutions possibles face aux désastres écologiques. Elle fait des recommandations autour d'elle aussi, prêtant ses livres qui ne lui reviennent pas toujours, notamment « Underground Railroad » de Colson Whitehead, traitant de l'esclavage. Notre invitée précise qu'elle tient chaque année à lire des écrivains et écrivaines issus de la communauté noire. La littérature offre ça, la chance de s'ouvrir à diverses réalités. Ça nous permet de transgresser les fossés générationnels, culturels et de genre, dit-elle. Mais récemment, « Cette vie » et « Au-delà » du docteur Christophe Fauré, approchant la conscience après la mort, est l'ouvrage qu'elle a le plus offert. La chroniqueuse reçoit des tonnes de bouquins, des services de presse que lui réserve une librairie de la rive sud de Montréal. Chaque semaine, je m'accroche les pieds aux fureteurs. C'est une vraie librairie indépendante et les libraires, c'est des allumés, du monde qui connaissent leur stock. Ça paraît, assure-t-elle. Malgré les exemplaires donnés par les éditeurs, elle en achète encore, ne pouvant s'empêcher d'en ajouter quelques-uns. On ne se refait pas. C'était José Blanchette, des livres à l'infini. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.